Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition 17 septembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, une journée fort en activité du côté des taux directeurs des deux côtés de la frontière. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine?
Oui, donc c'est rare que ça arrive, mais les deux banques centrales au Canada et aux États-Unis annonçaient leur politique monétaire la même journée, pas en même temps. Là, la Banque du Canada s'est prononcée à 10 heures ce matin avec une baisse de taux d'un quart de point. À peu près toute la population du Canada s'attendait à cette baisse de quart-là. Donc, ça n'a pas surpris personne. C'était déjà largement anticipé dans les taux d'intérêt. Du côté américain, on s'attendait également à une baisse de taux d'un quart de point. Largement, c'est ce qui a été livré. Ce qui a par contre retenu mon attention. Bon, on sait que Trump a nommé un nouveau représentant sur le conseil d'administration de la Réserve fédérale, un certain Stephen Miran. On sait que Trump espère plus de baisses de taux, est fâché contre Jerome Powell, demande plus de baisses de taux. Donc, sur le comité de la Réserve fédérale, donc ils ont voté pour une baisse d'un quart de point, 6 étaient en faveur de cette baisse-là, qui ont voté pour ça, et s'attendent à ce que ce soit la seule baisse d'ici la fin de l'année. Il y en a 7 qui pensent qu'il va y avoir jusqu'à 2 baisses supplémentaires avant la fin de l'année, et il y a un individu qui, lui, a voté pour une baisse de 1,5%, et oui, c'est le représentant de Donald Trump, Stephen Miran, et il y a un représentant, on ne sait pas lequel, mais qui s'attend à ce qu'il y ait 5 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Bon, moi, je vais connecter les points ensemble. Je pense que c'est M. Miran, possiblement, mais qui sait? On ne le sait pas. C'est quand même assez agressif. On sait que Jerome Powell doit terminer son mandat de directeur de la Réserve fédérale dans quelques mois. On cherche donc un représentant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main bien haut pour signaler au président qui est intéressé par le travail puis que lui, il va faire un meilleur travail pour baisser les taux. Donc, ceci dit, petite interlude sur... le fonctionnement des taux d'intérêt, ça va quand même bien à la bourse cette semaine. On est en hausse de 1% au Canada sur le TSX, 1,6% sur le S&P 500, 2,1% sur le Nasdaq. On vous a mentionné, là, les taux d'intérêt étaient à la baisse. C'est-à-dire qu'ils ont baissé là, toute la semaine. On était rendu à 4,07 du côté des taux aux États-Unis. On a même brièvement touché 3,99, là, un petit peu en bas de 4%. Ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu ça. Au Canada, on est passé à 3,18 sur les taux d'intérêt 10 ans. On était à 3,22 la semaine dernière. Le dollar canadien a légèrement augmenté. On a assisté à une présentation là, d'une compagnie de fonds communs de placement là, cette semaine. Puis j'ai retenu deux slides intéressantes, puis je voulais le partager rapidement. Les 4 piliers de la bourse. Donc ça m'a interpellé, cette slide-là, cette planche-là. Ce sont les bénéfices des entreprises, les taux d'intérêt, la liquidité dans le marché, puis la valorisation. Donc ça, c'est les 4 piliers importants là, qui déterminent la direction de la bourse. Si on les prend un par un, là, les bénéfices, ça va bien. Les saisons des résultats financiers des entreprises ont bien été. Les taux d'intérêt, en fait, ce n'est pas tant le niveau des taux que la direction des taux. Les taux sont à la baisse, c'est favorable à la bourse. La liquidité, il y a de l'argent dans le marché, il y a des gens qui ont de l'argent pour investir. Donc, les marchés financiers là, sont pleins de liquidité. La valorisation, peut-être un petit bémol. Aux États-Unis, les valorisations sont quand même un peu tirées. Ce n'est pas en soi un problème si la croissance, elle est là, mais on est à 22 fois les bénéfices sur une moyenne normale de 19. Du côté européen, on est à 14 fois les bénéfices. Du côté asiatique, 15 fois les bénéfices. Pourtant, on anticipe des croissances entre 14% aux États-Unis, 12% du côté euro, 10% au Japon. Donc, tu sais, croissance légèrement moindre à l'extérieur de l'Amérique, mais une valorisation beaucoup moindre. Donc, d'où la raison là, qu'on voit des mouvements depuis le début de l'année, là, de plus en plus, les investisseurs institutionnels, nous-mêmes, là, on favorise peut-être de réduire légèrement la pondération en Amérique en faveur des marchés à l'extérieur.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on explore un sujet souvent négligé, mais pourtant fondamental, les dividendes. Ouais. Je sais que toi, tu aimes ça.
On aime ça.
Ces paiements réguliers versés par certaines entreprises à leurs actionnaires peuvent offrir stabilité, rendement et aussi un peu de prévisibilité, surtout dans un contexte où les marchés sont volatiles. Martin, Je sais que tu aimes les dividendes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important?
Ben, les dividendes, une étude récente là, de 1980 à 2019, quelqu'un qui aurait simplement bénéficié de la performance des actions du S&P 500, du prix des actions, pas de dividendes, versus quelqu'un qui aurait reçu ses dividendes et les aurait réinvestis, ben, au bout donc 40 ans, 75% du rendement du portefeuille provenait des dividendes. Donc, est-ce que c'est important de collecter des dividendes? Oui, c'est très important, surtout si on réinvestit ces dividendes-là dans le portefeuille. Donc, c'est important pour la stabilité, hein? Quelle entreprise verse des dividendes? Bien, généralement, les entreprises versent des dividendes quand ils ont un modèle d'affaires mature, stable, ils font des bénéfices, ils ont des projets de croissance, là, mais ils ont quand même un excédent de flux de trésorerie qu'ils peuvent verser à leurs actionnaires. Donc, ça nous indique souvent, bien, un premier filtre, là, si une entreprise paye un dividende, bien, c'est parce qu'elle a quand même un certain niveau de rentabilité. Le rendement du dividende, il peut compenser aussi une performance boursière plus modeste. Ça arrive des fois que pendant plusieurs années, où, tu sais, on achète un titre, finalement, c'est le titre baisse, puis il reste bas, puis 3-4 ans plus tard, là, si on fait juste espérer que le prix remonte à son niveau initial, on a quand même perdu 3-4 ans. Si pendant ce temps-là, j'ai au moins collecté un dividende de 3-4 % par année, ben au moins j'ai réalisé un rendement équivalent à ce qu'un placement garanti m'aurait peut-être donné. Fait qu'au moins je réalise un bénéfice, juste d'être patient, là, le dividende allonge notre patience, si on veut. Et la discipline financière, ben, les sociétés qui versent des dividendes doivent maintenir une gestion rigoureuse des flux de trésorerie. C'est très mal vu pour une entreprise de couper son dividende. Donc, généralement, une entreprise qui instaure un dividende, ben, veut s'assurer de le maintenir trimestre après trimestre, idéalement de l'augmenter aussi dans le temps. Donc, ça nous donne quand même une bonne indicateur que c'est une entreprise qui a un peu plus une certaine discipline financière.
Puis ceci n'est pas une
C'est
recommandation.
pas infaillible, exact.
Ben, est-ce que tu peux me donner quelques exemples de titres à
Oui.
dividendes solides?
Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut courir acheter ces titres-là. On fait juste parler d'exemples de titres qui versent des dividendes. Ben, au Canada, hein, on sait que nos banques canadiennes ont un très long historique de verser des dividendes, d'augmenter les dividendes de façon régulière. Il y a eu un petit interlude là, durant la période 2008-2009 là, où les banques ont pas augmenté les dividendes, mais en général, là, à toutes les années, si ce n'est pas à tous les 6 mois, elles augmentent le dividende. Donc, des titres comme la Banque Royale, la Banque TD, BMO, là, tout ça, ce sont des entreprises au Canada, c'est un oligopole. Il y a 6 grandes banques très réglementées avec beaucoup, beaucoup de capital. Donc, c'est des entreprises généralement qui vont payer des dividendes. Bon, 4, 4,5, 5 %. Ça dépend des périodes. Là, ces temps-ci, les prix des actions des banques ont beaucoup monté. Fait que le rendement, c'est pour un nouvel acheteur aujourd'hui, c'est plus autour de 4. Mais si on garde son titre à long terme, puis que le dividende augmente à chaque année, ben, éventuellement, le rendement du dividende sur le prix d'achat d'il y a 5-10 ans peut être très, très élevé.
Parfait.
On parlait de services publics aussi, d'autres secteurs. Services publics, ben, on a plusieurs clients qui détiennent, par exemple, des Boralex, des Northland Power, donc des entreprises qui produisent de l'énergie, réalisent donc des bénéfices, payent des dividendes. Dans certains cas, même, c'est des dividendes qui sont mensuels. Fait que pour un retraité, là, c'est pas désagréable de recevoir un revenu à tous les mois. L'autre secteur aussi qui est reconnu pour ses dividendes, les télécommunications. Donc, historiquement, là, les Bell, Rogers et TELUS de ce monde là, étaient très bien vus au niveau des dividendes. Bon, Bell, cette année, a eu, bon, après plusieurs années là, de baisse de rentabilité, a dû réduire son dividende. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de TELUS, ce n'est pas le cas de Rogers, là. Bon, en principe, les bénéfices sont là pour couvrir le dividende. Donc, c'est quand même des secteurs là, qui sont reconnus pour quand même une bonne stabilité du dividende, puis des dividendes assez généreux.
Parfait. Et comment est-ce qu'on peut bâtir un portefeuille qui est axé vers ce genre de revenus-là?
Ben, la diversification demeure importante, tu sais, puis moi, je pense que le plus grand danger qui guette l'investisseur à dividende, c'est de se faire miroiter un gros dividende. Et ça, c'est souvent, si le dividende est trop gros, là, c'est beaucoup plus un danger qu'une opportunité. Quand une entreprise paye un dividende là, de 8, 9, 10, 12 %, le marché est en train de lever un gros drapeau rouge pour dire « Attention, on ne croit pas que cette entreprise-là va être en mesure de continuer de payer un dividende comme ça. » Donc, ça demeure très important de se diversifier, de diversifier parmi les secteurs. Donc, on peut avoir deux, trois banques, on peut avoir télécom, services publics, il y a des entreprises dans les secteurs industriels ou de la consommation qui payent des dividendes, donc d'avoir vraiment une exposition variée. On peut aussi varier en termes de type de classe d'actifs. Donc, on sait qu'il y a des entreprises, jusqu'à maintenant, on parle d'actions ordinaires, mais il y a des actions privilégiées qui existent, qui permettent là, d'avoir un flux très régulier. Le dividende est très stable. Le prix de l'action, des fois, peut fluctuer un peu.
Est-ce que tu peux juste rapidement expliquer c'est quoi une action privilégiée?
Ouais, l'action privilégiée, c'est un peu un hybride entre l'action de l'entreprise, là. Donc, l'action ordinaire de l'entreprise donne droit à la croissance des bénéfices de l'entreprise dans le futur. L'obligation de l'entreprise, c'est une dette de l'entreprise qui doit nous rembourser notre capital à l'échéance puis nous payer de l'intérêt. Entre les deux, il y a l'action privilégiée qui est quand même une action, mais cette action-là ne participe pas à la croissance des bénéfices. Par contre, le dividende qui lui est attribué, il est privilégié avant les actionnaires. Donc, si on ne paye pas le dividende à l'actionnaire privilégié d'abord, l'actionnaire ordinaire n'a pas le droit de se faire payer un dividende. Donc, on est quand même en position privilégiée de recevoir le dividende. Fait que ça peut être ça peut faire partie d'un dividende, d'un portefeuille diversifié orienté vers les dividendes.
Puis est-ce que peux nous parler de quelque chose qui est souvent mal compris aussi, la fiscalité reliée aux dividendes?
C'est un peu plus compliqué, hein? On sait que quand j'ai un dollar de revenu d'intérêt, puis j'ai un taux marginal à 50 %, ben mon dollar est pleinement imposé, je paye 50 sous d'impôt. Quand j'ai un gain en capital, ben la moitié du gain est imposable et je paierai la moitié d'impôt sur l'autre moitié. Donc, j'ai un dollar de gain en capital, je paye 25 sous d'impôt. Dans le cas d'un dividende, ben un dividende, c'est le bénéfice d'une entreprise. Donc, ce bénéfice-là, il a déjà été taxé à l'intérieur de l'entreprise. Quand l'entreprise me verse le dividende à moi, ben, je dois venir me taxer sur le bénéfice de l'entreprise avant impôt. Donc, si je reçois 1 $ de dividende, je vais me taxer sur 1,33 $, par exemple. Donc là, je vais payer mon taux marginal d'impôt là-dessus. Puis ensuite, je vais recevoir un crédit d'impôt. Donc, je vais venir réduire ma facture d'impôt en fonction du dividende que l'entreprise a versé. Tout ça compliqué, ça fait qu'un dollar de dividende me coûte généralement à peu près 33 sous d'impôt. Donc, c'est quand même beaucoup mieux qu'un revenu d'intérêt. C'est un peu plus compliqué au rapport d'impôt. Ça peut avoir un impact, par exemple, sur les personnes qui ont soit le supplément de revenu garanti ou qui sont sur le seuil de remboursement de la sécurité de la vieillesse. Donc, si je reçois un dividende, le montant qui est utilisé pour calculer ça, c'est pas le dividende réel reçu, c'est le dividende majoré. Fait que sans rentrer trop dans les détails, là, ça peut être quelque chose que le comptable,
Tu risques de perdre des gens,
on
Martin.
risque de perdre des gens.
Et souvent, les gens ils ont un comptable pour ça. Donc, parlez-en à votre comptable.
Exact.
Mettez-le sur votre rapport d'impôt. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la fiscalité reliée aux dividendes, elle est quand même
On
intéressante.
paye moins d'impôts de façon significative avec un portefeuille de dividendes non enregistré versus un revenu d'intérêt.
Parfait. Et à qui peut convenir un tel portefeuille qui inclut des dividendes, des revenus comme ça?
Ouais. Ben moi, je pense que ça s'adresse à tout le monde. T'sais, évidemment, un retraité qui vit, donc on a plusieurs clients qui veulent, entre guillemets, pas utiliser le capital, puis bon, c'est placé dans des actions, puis ils reçoivent le dividende, puis c'est cet argent-là qu'ils dépensent pour leurs besoins courants. Et le capital, ben, il augmente tranquillement pas vite si les actions performent bien. Donc ça fonctionne très bien pour un retraité avec quand même une mise en garde au niveau de la répartition d'actifs. Là, ça peut faire partie d'un portefeuille diversifié. On n'est pas en train de dire qu'on met 100 % de son argent en actions à la retraite, mais certains le font. Ça dépend du profil de chacun. Mais même en phase d'accumulation, on parle, tu sais, dans notre cas, là, dans notre propre compte, on a des actions de banque, on a des différents titres. Puis, ben nous, on n'a pas besoin de cet argent-là pour vivre parce qu'on gagne encore un salaire. Ben nous, on fait automatiquement réinvestir le dividende dans plus d'actions. Donc, par exemple, TELUS, à tous les trimestres, me donne quelques dollars de dividendes. Automatiquement, ces dollars-là sont remplacés par des actions de TELUS. Puis là, ma quantité d'actions de TELUS
ça
augmente
s'appelle
dans le
comment,
temps.
ça?
Ça s'appelle un DRIP en français. Donc, DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Donc, c'est le programme de réinvestissement des dividendes. Ce n'est pas toutes les entreprises qui l'offrent. Il n'y a pas de frais pour ça. Certaines entreprises ils vont simplement racheter dans le marché ou émettre des nouvelles actions au prix du marché. Ça fait que quand le prix de l'action baisse, ben mon dividende me permet d'acheter plus d'actions. Si le prix d'action monte, ben mon dividende achète moins d'actions. En fait, c'est un peu le principe d'acheter bas, vendre haut. Là, j'en achète plus quand c'est bas. Je profite de la faiblesse des titres. Certaines entreprises vont même instaurer un rabais sur le prix de l'action. Tu sais, 2, 3, 5 % de rabais. Donc ça, c'est très avantageux. Ça coûte rien. Puis là, ben la quantité d'actions augmente dans le temps. Plus j'ai d'actions, plus je reçois de dividendes. Plus je reçois de dividendes, plus j'achète de nouvelles actions. Hein, on comprend que la boule est en train de tourner. Ça, c'est ça le concept d'intérêt composé. C'est vraiment aussi, au niveau de la prudence, c'est un portefeuille qui génère des revenus. Tu sais, conceptuellement, là, j'ai 500 000 $, on frappe une mauvaise année dans le marché, ça baisse de 10 %. Mais mon portefeuille me génère 5 % de dividendes par année, ben, je suis capable mentalement de dire, OK, ben, dans 2 ans, tu sais, juste avec les revenus de dividendes, j'aurai récupéré la baisse, même si la bourse ne remonte pas. Fait que, tu sais, ça, c'est si on veut, moi, je dis toujours, le dividende allonge la patience. Là, ça me permet d'avoir une meilleure idée, une meilleure visuelle sur la rentabilité éventuelle de mon portefeuille, puis d'amener une certaine stabilité. Les prix baissent de 10 %, je reçois 5 % de dividendes, ben je suis juste moins 5 au lieu d'être moins 10.
C'est ça. Puis, il faut vraiment savoir si ça fit dans votre profil d'investisseur et puis si c'est une volatilité au niveau de l'action que vous pouvez tolérer. Mais ça fait bien du sens, ça fait une bonne partie d'une stratégie d'investissement d'un portefeuille. Merci beaucoup, Martin. Les dividendes ne sont pas seulement un complément de revenus, ils sont une stratégie d'investissement à part entière, si vous voulez. Donc, dans un monde incertain, ils offrent une forme de stabilité et de prévisibilité que peu d'autres actifs peuvent égaler. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur les sujets abordés aujourd'hui ou sur vos objectifs financiers, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.